Octave Mirbeau, l'abbé Jules. Première partie, chapitre 1. Hormis les jours où mon père avait pratiqué une opération difficile, un accouchement important, et qu'il en expliquait à table par des termes techniques, souvent latins, les plus émouvantes phases, mes parents ne se parlaient presque jamais. Non qu'ils se boudassent, ils s'aimaient beaucoup au contraire, s'entendaient, en toute chose, le mieux du monde, et l'on ne pouvait rencontrer un ménage plus uni. Mais, habitués à penser la même pensée, à vivre les mêmes impressions, et n'étant point romanesques de leur nature, ils n'avaient rien à se dire. Ils n'avaient rien à me dire non plus, me trouvant ou trop grand pour m'amuser à des chansons, ou trop petit pour m'ennuyer à des questions sérieuses. Et puis, ils étaient très imprégnés de cette idée qu'un enfant bien élevé ne doit ouvrir la bouche que pour manger, réciter ses leçons, faire sa prière. S'il m'arrivait quelquefois de m'insurger contre ce système de pédagogie familiale, mon père, sévèrement, m'imposait silence par cet argument définitif. « Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Et les trappistes, est-ce qu'ils parlent, eux ?» À part cela, s'il n'était pas toujours gai et affectueux comme je l'eus souhaité, il me chérissait du mieux qu'il pouvait. Pour qu'il se crût autorisé à desserrer les lèvres, il fallait, en dehors des aventures professionnelles et du train-train de la vie, des occasions considérables, telles qu'un déplacement de fonctionnaire, un chevreuil tué à l'affût dans les bois de M. de Blandet, la mort d'un voisin, la nouvelle imprévue d'un mariage. Les grossesses probables des clientes riches servaient aussi de thème à de brefs entretiens qui se résumaient de la sorte. « Pourvu que je ne me trompe pas, » disait mon père, « pourvu qu'elle soit vraiment enceinte. »« Ah, ce sera un bel accouchement, » affirmait ma mère. « 4 par mois, comme celui-là, je n'en demande pas plus. Nous pourrions nous acheter un piano. » Et mon père faisait claquer sa langue. « 4 par mois, fichtre, tu es trop gourmande aussi, mignonne. » Et puis, je suis toujours inquiet avec cette sacrée femme-là. Elle a le bassin si étroit. » Sans savoir d'une façon précise quelle partie mystérieuse du corps désignait ce mot « bassin », j'avais fini, dès l'âge de 9 ans, par connaître exactement le jaugeage et les facultés puerpérales des bassins de toutes les femmes de Vianté. Ce qui n'empêchait nullement mon père, après ses constatations scientifiques, après des énumérations d'utérus, de placenta, de cordons ombilicaux, de m'assurer que les enfants naissaient sous des choux. Je n'ignorais rien non plus de ce qui constitue un cancer, une tumeur, un phlegmont. Mon esprit, délaissé, s'était peu à peu empli de l'horrible image des plaies qu'on cache comme un déshonneur. Une lamentation d'hôpital avait passé sur lui, glaçant le sourire confiant de la toute petite enfance. Et à voir mon père sortir chaque soir sa trousse de sa poche, étaler sur la table les menus et redoutables instruments d'acier brillant, souffler dans les sondes, essuyer les bistouris, faire miroiter à la lampe les minces lames des lancettes, mes si beaux rêves d'oiseaux bleus et de fées merveilleuses se transformaient en un cauchemar chirurgical, où le pus ruisselait, où s'entassaient les membres coupés, où se déroulaient les bandages et les charpies, hideusement ensanglantées. Parfois aussi, il employait une soirée à nettoyer son forceps, qu'il oubliait très souvent dans la capote de son cabriolet. Il en astiquait les branches rouillées avec de la poudre jaune, en fourbissait les cuillères, en huilait le pivot. Et quand l'instrument reluisait, il prenait plaisir à le manœuvrer, faisant mine de l'introduire en des hiatus chimériques avec délicatesse. Le recouvrant ensuite de son enveloppe de serge verte, il disait « C'est égal, je n'aime pas me servir de cela. J'ai toujours peur d'un accident. C'est si fragile, ces sacrés organes. » « Sans doute, répondait ma mère. Mais tu oublies que dans ces cas-là, tu prends le double d'un horaire. » Si ces choses m'instruisaient de ce que les enfants ignorent habituellement, elles ne m'amusaient pas. En mon existence chétive, rien ne m'était plus pénible que ces heures de repas, si lentes à s'écouler. J'aurais voulu m'échapper, gambader quelque part, dans l'escalier, dans le corridor, à la cuisine, près de la vieille Victoire, qui, au risque d'encourir les reproches de ma mère, me laissait barboter dans ses chaudrons, jouer avec les robinets du fourneau, remonter le tournebroche, et parfois me conter d'extraordinaires histoires de brigands qui me terrifiaient délicieusement. Mais l'obéissance m'obligeait à me morfondre, sans bouger, sur ma chaise, dont le siège trop bas était exhaussé par deux in-folios, deux tomes dépareillés et très vieux de « La vie des saints ». Et je ne devais quitter la table que lorsque ma mère donnait, en se levant, le signal du départ. L'été, je m'arrangeais pour ne pas trop souffrir de l'ennui. Le vol grenu des mouches, le ronflement des guêpes au-dessus des assiettes de fruits, les papillons et les insectes qui, avec la fraîche odeur des fleurs arrosées, venaient s'abattre sur la nappe, suffisaient à distraire mon esprit. Et puis, par la fenêtre ouverte, j'aimais à regarder le jardin, la vallée, là-bas, et plus loin, les coteaux de Saint-Jacques, violets et brumeux, derrière lesquels se couchait le soleil. Hélas, l'hiver, il n'y avait plus de mouches, plus de guêpes, plus de papillons, plus de ciel, plus rien. Plus rien que cette salle morne et que mes parents, absorbés chacun de son côté, en des combinaisons inconnues, d'où je me sentais si absent, toujours. Il avait plu toute la journée, je me souviens, et ce soir-là, un soir d'hiver particulièrement triste, mes parents n'avaient pas prononcé une parole. Ils semblaient plus moroses que jamais. Mon père plia sa serviette, soigneusement, en forme de cœur, comme il avait coutume de faire, chaque soir, le repas terminé. Et tout à coup, il se demanda « Mais qu'a-t-il pu fabriquer à Paris ? C'est inconcevable !» Par menu chiquenaude, il chassa les miettes de pain tombées dans les plis de son gilet et de son pantalon, rapprocha sa chaise de la cheminée où des tisons achevaient de se consumer, et, le corps légèrement penché vers le feu, les coudes aux genoux, il se chauffa les mains, qu'il frottait de temps en temps l'une contre l'autre en faisant craquer les jointures. Victoire vint desservir, tournant autour de la table, les manches de sa robe retroussées jusqu'au coude. Quand elle fut partie, mon père répéta, accentuant son interrogation. « Mais qu'a-t-il pu fabriquer à Paris ? Pendant 6 ans ! Sans donner de ses nouvelles, jamais ! Un prêtre ! C'est bien curieux. Ça me chiffonne de le savoir. » Je compris qu'il s'agissait de mon oncle, l'abbé Jules. Le matin, mon père avait reçu une lettre de lui, annonçant son très prochain retour. La lettre était brève, ne contenait aucune explication. On y eut vainement cherché une émotion, une tendresse, une excuse de ses longs oublis. Il revenait à Vianthet, et se bornait à en informer son frère, par une lettre semblable aux lettres d'avis que les fournisseurs envoient à leurs clients. Mon père avait même remarqué que l'écriture en était plus hargneuse que jamais. Pour la 3e fois, il s'écria « Mais qu'a-t-il pu fabriquer à Paris ?» Ma mère, le buste droit devant la table, raide, les bras croisés, l'œil vague, hochait la tête. Elle avait une expression de dureté conventuelle, qu'exagérait encore sa robe de serge noir, plate, sans un ornement, sans une blancheur de lingerie au col et au poignet. « Un original de son espèce, » fit-elle. « Sûr que ça n'est pas très édifiant. » Et après un silence, d'une voix sèche, elle ajouta. « Il aurait bien dû y rester à Paris. Moi, je n'attends rien de bon de son retour. » Mon père approuva. « Sans doute. Sans doute, » dit-il. « Avec un caractère comme le sien, la vie ne sera pas heureuse tous les jours. Oh non, par exemple. Pourtant... » Il réfléchit pendant quelques secondes et reprit. « Pourtant, il y a un avantage, mignonne, à ce que l'abbé reste près de nous. Un avantage considérable. Considérable !» Ma mère riposta vivement en haussant les épaules. « Un avantage? Tu crois cela, toi? D'abord, la famille, il s'en moque, autant que de dire sa messe. A-t-il seulement une pauvre fois envoyé des étrennes au petit, son filleul? Quand tu l'as soigné dans sa grande maladie, passant les nuits, négligeant pour lui tes affaires, t'a-t-il seulement remercié? Tu disais, il nous fera un beau cadeau. Où est-il, son beau cadeau? Et les lapins, et les bécasses, et les grosses truites, et tout ce dont on le gavait, ce que nous nous sommes privés de bonnes choses pour lui, il semblait en vérité que cela lui était dû. « Dame, voyons, » interrompit mon père, « on faisait pour le mieux. » « Non, vois-tu, nous avons été des imbéciles avec lui. C'est un mauvais parent, un mauvais prêtre, un être indécrottable. S'il revient à Vientey, c'est qu'il ne possède plus rien, qu'il a tout mangé, qu'il est acquia, et nous l'aurons à notre charge. Bien vrai. Il ne nous manquait plus que ça. Allons, allons, mignonne, voilà encore que tu exagères. S'il revient, mon Dieu, c'est qu'il n'a jamais pu rester en place. C'est un diable. Il quitte Paris comme il a quitté l'évêché, où il serait arrivé à tout, comme il a quitté sa cure de randonnée, où il était si tranquille, où il y avait tant de casuels. Il lui faut du changement, du nouveau. Il ne se trouve à son aise nulle part. Quant à sa fortune, je ne suis pas du tout de ton avis. Il était joliment avare, l'abbé, joliment pingre, souviens-toi. D'être pingre, mon ami, cela n'empêche point de gaspiller son bien de sotte manigance. Sait-on quelle lubie traverse des cervelles pareilles? Enfin, tu oublies qu'avant de partir pour Paris, l'abbé a vendu sa ferme, vendu ses deux prés, vendu le bois de la Faudière. Pourquoi? Et tout cet argent, où est-il maintenant? Ça, c'est vrai, dit mon père, devenu subitement rêveur. Sans compter qu'il n'est pas aimé dans le pays, qu'il te nuira dans tes élections, peut-être même dans ta clientèle. Ainsi les Bernard, que tu as tant de peine à maintenir, je ne serais pas étonné qu'il te lâche. Dame, ça se peut. Et puis, va donc chercher des gens qui soient aussi souvent malades et qui paient aussi bien. » Mon père se renversa sur le dossier de sa chaise, eut une grimace aux lèvres, se gratta la nuque. « Oui, oui, » murmura-t-il à plusieurs reprises. « Tu as raison. « Ça se peut. » La voix de ma mère prit un ton confidentiel. « Écoute, je n'ai jamais voulu te le dire, pour ne pas te tourmenter, mais je tremblais toujours d'apprendre un malheur. Tiens, Verger, qui a tué l'archevêque. Verger était un prêtre aussi, un fou, un exalté, comme l'abbé Jules. » Mon père se retourna d'un mouvement brusque. Une épouvante était dans ses yeux. Il semblait que, tout d'un coup, son regard eût plongé dans un abîme plein d'horreur. Frissonnant, il balbutia. « Verger? Qu'est-ce que tu dis, là? Verger? Sacristie! » « Eh bien oui, j'ai souvent pensé à cela. Jamais je n'ouvrais ton journal sans une angoisse au cœur. Est-ce qu'on sait? D'abord, dans ta famille, ils sont si originaux, tous. » La conversation cessa, et un grand silence de nouveau s'établit. Au dehors, le vent sifflait, secouait les arbres, et la pluie s'était remise à tambouriner sur les vitres. Mon père, le visage bouleversé, regardait le feu mourir. Ma mère, songeuse, plus pâle d'avoir tant parlé, avait les yeux perdus dans le vide familier. Et moi, dans cette salle à manger, à moitié baignée d'ombre, dans cette salle sans meubles, aux murs nus, aux fenêtres pleines de nuit, je me sentais bien seule, bien abandonnée, bien triste. Du plafond, des murs, des yeux même de mes parents, un froid tombait sur moi, qui m'enveloppait comme d'un manteau de glace, me pénétrait, me serrait le cœur. J'avais envie de pleurer. Je comparais notre intérieur claustral, renfrogné, avec celui des servières, des amis chez qui, toutes les semaines, le jeudi, nous allions dîner. Comme j'enviais l'intime et douce chaleur de cette maison, ses tapis caressants, ses murs ornés de tentures consolatrices, ses portraits de famille dans des cadres ovales, ses souvenirs anciens pieusement gardés, tous ces jolis riens épars qui étaient, chacun, un sourire, la joie constante du regard, la révélation d'une habitude chère. Pourquoi ma mère n'était-elle pas, comme Madame Servière, gaie, vive, aimante, vêtue de belles étoffes, avec des dentelles et des fleurs à son corsage, et des parfums dans ses cheveux roulés en torsades blondes? Elle était si charmante, Madame Servière. Tout en elle m'attendrissait tellement que j'aimais à m'asseoir sur les sièges qu'elle venait de quitter, à respirer, à embrasser la place où son corps avait reposé. Pourquoi ne faisais-je pas ainsi avec ma mère? Pourquoi n'étais-je pas comme Maxime et comme Jeanne, des enfants de mon âge, qui pouvaient causer, courir, jouer dans les coins, être heureux, et qui avaient de grands livres dorés, dont le père expliquait les images au milieu des admirations et des rires? Retenant des bâillements, je me tournais, me retournais, sur cet exécrable vide des seins qui me servait de siège, sans parvenir à trouver une position qui me contentât. Afin d'intéresser mes oreilles à quelque bruit, mes yeux à quelque spectacle, j'écoutais Victoire, qui, derrière la porte, traînait ses sabots sur les dalles de la cuisine, remuait de la vaisselle, et je considérais le fond de lumière jaune qui tremblotait, au plafond, au-dessus de la lampe. Ce soir-là, mon père oublia d'inscrire sur son agenda les visites et les courses qu'il avait faites dans la journée chez des malades. Je remarquai aussi qu'il ne lut point son journal, deux choses que, dans l'ordinaire de la vie, il accomplissait avec une impitoyable régularité. Pour me distraire un peu, je voulus penser à mon oncle l'abbé, dont le retour avait amené entre mes parents une conversation d'une longueur, d'une vivacité inaccoutumée. J'étais bien petit quand il avait quitté le pays, 3 ans à peine, et pourtant je m'étonnais de ne le revoir dans mes souvenirs que comme une chose très incertaine. Car depuis cette époque, il ne se passait pas de jour qu'on me menaçât de mon oncle, ainsi que d'une sorte de diable noir, d'ogre terrible qui emporte les enfants méchants. Ne m'avait-on pas raconté qu'une fois, jouant dans son jardin de randonnée, j'étais tombé au beau milieu d'une corbeille de tulipes et que mon oncle, furieux, m'avait cruellement fouetté avec le martinet qui lui servait à battre ses soutanes. Et lorsqu'il s'agissait de dépeindre vigoureusement la laideur physique ou la laideur morale de quelqu'un, mes parents ne manquaient jamais d'employer cette comparaison. « Il est laid comme l'abbé Jules, sale comme l'abbé Jules, gourmand comme l'abbé Jules, violent comme l'abbé Jules, menteur comme l'abbé Jules. » Si je pleurais, Ma mère, pour me faire honte, s'écriait « Oh, qu'il est vilain! Il ressemble à l'abbé Jules !» Si je commettais un acte de désobéissance, « Continue, continue, mon garçon, tu finiras comme l'abbé Jules !» L'abbé Jules, c'est-à-dire tous les défauts, tous les vices, tous les crimes, toutes les hideurs, tout le mystère. Très souvent, le curé sortait, venait nous voir, et chaque fois il demandait « Eh bien, toujours pas de nouvelles de l'abbé Jules ?»« Hélas non, monsieur le curé !» Le curé croisait alors ses mains courtes et potelées sur son gros ventre, dodeliné de la tête d'un air navré. Si c'est possible, des choses comme ça. Pourtant, hier, j'ai encore dit une messe pour lui. Il est peut-être mort, monsieur le curé. Oh, s'il était mort, ma petite dame, ça se saurait. Ça vaudrait peut-être mieux, monsieur le curé. Peut-être bien, ma petite dame. La miséricorde de Dieu est si grande. On ne sait pas, mais c'est bien triste pour le clergé. Bien triste, bien, bien triste. Et pour sa famille aussi, allez, monsieur le curé. Et pour le pays, et pour tout, bien triste, pour tout. Et le curé humait sa prise en reniflant fortement. Je me souvenais aussi des histoires de jeunesse de l'abbé, que, dans ses jours de bonne humeur, mon père m'avait dites, moitié scandalisé, moitié réjoui. Il les commençait d'un ton sévère, promettait d'en tirer des morales bien senties, puis il se laissait gagner, peu à peu, par la gaieté sinistre de ses farces, et il achevait son récit dans une quinte de rire en se tapant la cuisse. Une, entre autres, avait produit sur moi une vive impression. Quelquefois, lorsque je voyais le visage de mon père se dérider un peu, je demandais « Petit père, raconte mon oncle Jules et ma tante Athalie. As-tu été bien sage, au moins? As-tu bien appris tes leçons ?»« Oui, oui, petit père. Oh, je t'en prie, raconte !» Et mon père contait. « Toute petite, ta pauvre tante Athalie, que nous avons perdue, hélas, était très gourmande, si gourmande qu'on ne pouvait laisser à portée de sa main aucune friandise qu'elle ne la dévorât. À l'office, elle chipait les restes des fricots. Dans les placards, elle découvrait les pots de confiture et sauçait ses doigts dedans. Au jardin, elle mordait à même les pommes sur les espaliers, et le jardinier se désespérait, pensant que c'était des loirs, et les autres bêtes malfaisantes qui causaient ces ravages. Il multipliait les pièges, passait les nuits à l'affût, et la tante se moquait de lui. « Eh bien, père François, et les loirs ?»« Ah, ne m'en parlez point, mamselle, c'est des sorciers, ben sourds, mais je les pincerai tout de même. » Ce fut la tante qu'il pinça. On la punit sévèrement, parce que ce sont de vilains péchés que la gourmandise et la désobéissance. Quoiqu'elle fût espiègle, un vrai petit diable. Athalie ne se portait pas bien. Elle toussait beaucoup et l'on craignait pour sa poitrine. Afin de la guérir, ta grand-mère lui faisait boire tous les matins une cuillerée d'huile de foie de morue. Ça n'est pas bon, l'huile de foie de morue. Et, je te l'ai dit, ta tante était gourmande. Pour la décider, il fallait la croix et la bannière. Cependant, au bout de quelques mois, elle se trouva bien de ce régime. Les couleurs lui étaient revenues, sa toux diminuait. Ce qui ne l'a pas empêchée plus tard de mourir d'une phtisie pulmonaire. Elle avait des cavernes. Quand on a des cavernes, vois-tu, il n'y a rien à faire. Il faut mourir un jour ou l'autre. Et les enfants qui ne sont pas sages ont toujours des cavernes. Pour donner sans doute à mon imagination le temps de peser ces paroles prophétiques, mon père avait l'habitude de s'arrêter un instant à cet endroit de son récit. Il me regardait d'un air affirmatif, se mouchait longuement, et tandis qu'un petit frisson me secouait le corps, à la pensée que moi aussi, comme ma tante Athalie, je pourrais bien avoir des cavernes, il poursuivait d'une voix joviale. Un matin, ton oncle Jules, il avait 10 ans alors, entra en chemise chez sa sœur. D'une main, il tenait la bouteille d'huile de foie de morue, de l'autre, un sac de papier rempli de pastilles de chocolat, qu'il avait découverte je ne sais où, au fond d'un tiroir. La pauvre petite dormait. Brutalement, il la réveilla. « Allons, bois ta cuillerée !» lui dit-il. Ta tante d'abord refusa. « Bois ta cuillerée !» répéta Jules. « Et je te donnerai une pastille de chocolat !» Il avait ouvert le sac, remuait les pastilles, en prenait des poignées qu'il lui montrait en claquant de la langue. « C'est bon !» lui disait-il. « C'est fameusement bon, et il y a de la crème à la vanille. Allons, bois !» Athalie but en faisant d'horribles grimaces. « Prends-en une autre, maintenant, dit Jules, et je te donnerai 2 pastilles. Tu entends bien, 2 belles pastilles. » Elle but une seconde cuillerée. « Tiens, encore celle-ci et tu auras 3 pastilles. » Elle but une 3e cuillerée. Elle en but 4, puis 6, puis 10, puis 15. Elle but toute la bouteille. Alors ton oncle ne se tint plus de joie. Il dansa dans la chambre, agitant la bouteille vide, criant « C'est une bonne farce ! Quelle bonne farce ! Et tu seras malade, et pendant 2 jours tu vomiras. Ah, que je m'amuse !» Ta tante Athalie pleurait, se sentait le cœur tout brouillé. Elle fut malade, en effet, très malade, faillit mourir. Pendant 8 jours, elle eut la fièvre et des vomissements. Et 2 semaines, elle garda le lit. Ton oncle, lui, fut fouetté. On le mit au cachot noir. Mais il fut impossible de lui arracher un mot de repentir. Au contraire, il ne cessait de répéter « elle a vomi, ah, que je m'amuse !» Et mon père, éclatant de rire, concluait « Sacré Jules, va !» Ces particularités, incessamment renouvelées, auraient dû graver, pour toujours, les traits d'un tel oncle dans mon esprit d'enfant craintif. Mais non, il ne me restait de lui qu'une vision confuse et changeante, à laquelle mon imagination, surexcité par les récits de ma famille, prêtait 1000 formes différentes et pénibles. Mon oncle l'abbé. En me répétant ces mots, tout bas, je voyais se dresser devant moi une figure de fantôme, hérissée, sabrée de grimaces, grotesque et terrible, tout ensemble, et je ne savais pas si je devais m'en effrayer ou bien en rire. Mon oncle l'abbé. Je m'efforçais d'évoquer sa véritable physionomie. J'appelais à mon aide toutes les circonstances graves de ma vie, desquelles elle pouvait surgir, éclatante et réelle. Ce fut en vain. De toute la personne de mon oncle, vague ainsi qu'un vieux pastel effacé, je ne retrouvais qu'un long corps osseux, affaissé dans un fauteuil à oreillettes, avec des jambes croisées sous la soutane, des jambes maigres et sèches, aux chevilles pointues, qui se terminaient par des pieds énormes, carrés du bout et chaussés de chaussons verts. Autour de lui, des livres. Sur un mur gris, dans une chambre claire, un tableau représentant des personnages à barbe rousse, penchés au-dessus d'une tête de mort. Puis une voix, dont j'avais encore dans l'oreille le timbre désagréable. Une voix sifflante de pneumonique, toujours pleine de gronderies et de reproches irrités. « Polisson !» par-ci, « Polisson !» par-là. Et c'était tout. Je n'éprouvais pas un bien vif désir de le revoir, comprenant instinctivement qu'il ne m'apporterait pas un élément nouveau d'affection ou d'amusement. Certain aussi que je n'avais rien à attendre d'un mauvais parrain, qui, lors de mon baptême, avait refusé de payer les dragées, d'offrir un cadeau à ma mère et ne me donnez jamais d'étrenne à la nouvelle année, pas même des oranges. » J'avais entendu dire également qu'il ne m'aimait pas, qu'il n'aimait personne, qu'il ne respectait pas le bon Dieu, qu'il était toujours en colère. Et j'eus une serrée au cœur à l'idée qu'il me battrait peut-être, comme autrefois, avec son martinet. Cependant, je ne pouvais me défendre d'une certaine curiosité qu'avivaient les exclamations de mon père. « Mais qu'a-t-il pu fabriquer à Paris pendant 6 ans ?» Ce point d'interrogation me semblait renfermer un impénétrable mystère. Il me faisait voir l'abbé Jules dans un lointain obscur et grouillant, entouré de formes vagues, et se livrant à des pratiques défendues, dont je souffrais de ne pas connaître le but. En effet, pourquoi était-il parti? Pourquoi ne savait-on rien de sa vie là-bas? Et pourquoi revenait-il? Quelle impression me causerait-il? Son corps osseux, ses jambes sèches, ses chaussons verts, la bouteille d'huile de foie de morue, les tulipes, le martinet, tout cela dansait dans ma tête une éperdue sarabande. À la veille de retrouver cet oncle inquiétant, je ressentais la même peur attractive qui me prenait les jours de foire sur le seuil des ménageries et des boutiques de saltimbanques. N'allais-je pas être tout à coup en présence d'un personnage prodigieux, incompréhensible, doué de facultés diaboliques, plus hallucinant 1000 fois que ce paillasse à perruque rouge qui avalait des sabres et de l'étoupe enflammée, plus dangereux que ce nègre mangeur d'enfants qui montrait ses dents blanches dans un rire d'ogre affamé. Tout le surnaturel que mon cerveau exalté était capable d'imaginer, je l'associai à la personne de l'abbé Jules, qui, tour à tour, minuscule et géante, se dissimulait comme un insecte entre les brins d'herbe et soudain emplissait le ciel, plus massive, plus haute qu'une montagne. Je ne voulus pas réfléchir plus longtemps aux conséquences possibles de l'installation à Vianthet de l'abbé Jules, car la terreur s'emparait de moi peu à peu. Et mon oncle m'apparaissait maintenant avec un nez crochu, des yeux de braise ardente et 2 cornes effilées que son front dardait contre moi férocement. La lampe filait. Une âcre odeur d'huile brûlée se répandait dans la salle. Mais, chose extraordinaire, personne n'y prenait garde. Mes parents étaient restés silencieux. Ma mère, immobile, les yeux vagues, le front sévère, continuait de rêver. Mon père tisonnait avec rage, écrasait des charbons du bout de la pincette, fouillait la cendre qui voletait dans le foyer en flocons blanchâtres. Et le vent s'apaisait, les arbres ronflaient doucement, la pluie s'égouttait sur la terre avec un bruit monotone. Tout à coup, dans le silence, la sonnette de la grille sonna. « Ce sont les Robins, » dit ma mère, « montons dans la chambre. » Elle se leva, prit la lampe dont elle baissa la mèche, et nous la suivîmes. Moi, heureux de me dégourdir les jambes, mon père répétant à voix basse, « Mais qu'a-t-il pu fabriquer à Paris ?» Chapitre 2. Les maisons de Vianthet sont bâties, au versant d'un petit coteau, de chaque côté de la route de montagne, qui débouche de la forêt à 1 kilomètre de là, par une belle trouée dans la futaie. Maisons propres et riantes, la plupart de briques, avec des toits hauts et des fenêtres gaiement ornées, l'été, de pots de fleurs et de plantes grimpantes. Quelques-unes atteignent à des jardins symétriquement disposés en plate-bande et dont le mur qui les enclôt se couvre d'espaliers et s'encadre de vignes. Des venelles, ouvrant de brusques horizons sur les champs, aboutissent à l'unique rue qui, vers le milieu du bourg, s'élargit en une vaste place, au centre de laquelle une fontaine se dresse. Puis la rue continue de descendre jusqu'à la vallée et la grande route. Franchissant la rivière sur un pont de granit rose, reprend son cours paisible à travers les prés, les cultures et les boquetaux. Dans le haut pays, et relié à lui par une vaste allée d'ormes, rendez-vous des gamins qui jouent à la marelle. L'église apparaît, vieille, tassée, coiffée d'un clocher pointu en forme de bonnet de coton. À droite sont les écoles et notre habitation. À gauche, le presbytère, séparé du cimetière par un mur démoli, creusé en brèche de ci, de là, au-dessus desquels l'on voit les croix qui se démantibulent et les tombes qui verdissent. Au milieu de l'allée d'Orme, un calvaire s'élève, dont le Christ de bois peint, pourri par l'humidité, n'a plus qu'une jambe et qu'un bras, ce qui n'empêche pas les dévotes de venir s'agenouiller au pied de la croix et de marmotter des oraisons en égrenant leur chapelet. À cette époque, Vianté comptait 2500 habitants et ne renfermait pas plus de 20 familles bourgeoises et ménages de fonctionnaires. On s'y voyait très peu, même entre parents, qui, presque tous, se trouvaient divisés pour de féroces et mesquines considérations de vanité ou brouillés par des affaires de succession. Nos relations, à nous, se bornaient aux servières, dont le luxe gênait mes parents, les inquiétait, les mettait en méfiance. Au curé sortait, vieillard excellent, charitable et compromettant, à cause de l'excessive candeur de son âme, qui l'incitait à commettre sans cesse les plus lourdes bévues. Enfin, au Robin, devenu tout de suite les intimes de la maison. Nous recevions bien, de loin en loin, la visite du cousin Debray, ancien capitaine d'infanterie, original fieffé, qui passait son temps, mangeait l'argent de sa retraite, à empailler des belettes et des putois dans des attitudes comiques et prétentieuses. Mais on lui faisait mauvais accueil, parce qu'il ne pouvait prononcer deux mots sans jurer, et qu'il sentait la bête morte, disait ma mère. Les Robins, dès leur arrivée, ils n'habitaient le pays que depuis 4 ans, s'étaient étroitement liés avec nous. À la première entrevue, nous nous étions reconnus pour des êtres de même race. Comme il n'existait, entre les Robins et ma famille, aucune rivalité d'intérêt ou d'ambition, qu'ils avaient les mêmes instincts, les mêmes goûts, une compréhension pareille de la vie, l'amitié s'établit durable. Amitié d'ailleurs restreinte à la facile observance d'un égoïsme cordial, qui n'eût point résisté aux plus légères secousses du sacrifice et du dévouement. Monsieur Robin, ancien avoué de Bayeux, avait été, sa charge vendue, nommé juge de paix à Vianté, grâce à la protection d'un sénateur dont il parlait sans cesse et à propos de tout avec enthousiasme. C'était un homme d'une 50aine d'années, vaniteux, solennel et stupide, irréparablement. Au physique, il ressemblait à un singe, à cause de sa lèvre supérieure, un large morceau de peau, bombante et mal rasée, qui mettait une distance anormale entre le nez aplati et la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Pour le reste, petit, gras, la face jaune, dans un collier de barbe grisonnante, le ventre rond, les mains poilues. Par une habitude de citadin qui a beaucoup traîné des dossiers sous le bras, dans les greffes et les tribunaux, il ne se montrait qu'en chapeau de forme haute, en redingote de casimir noir, en cravate blanche et aussi en galoche, la seule concession qu'il eût faite aux mœurs locales. Sans qu'on en connût les raisons historiques, on le disait d'une incorruptibilité presque farouche. Un vieux Romain. Et cependant, à la veille des audiences, on voyait entrer chez lui des paysans avec des paniers bondés de volailles et de gibier qu'il remportait vides à la suite de quelques discussions juridiques, sans doute. Ses adversaires politiques eux-mêmes rendaient justice à son indépendance et à sa dignité, bien qu'il les condamnât toujours et de parti pris au maximum de la peine quand ils avaient le malheur de paraître à sa barre. Enfin, aucun professeur de droit n'était plus ferré que lui sur le code civil, qu'il pouvait réciter de mémoire, tout entier, dans l'ordre inflexible des articles. Du moins, il aimait à se vanter de ce tour de force, et, quoique très prudent, proposait à qui voulait d'extravagants paris que personne jusqu'ici n'avait osé relever, ce qui lui valait une réputation de jurisconsulte phénomène dans tout le canton et au-delà. Il savait aussi, de la même manière, les arrêts de la Cour de cassation. Il savait tout. Mais il avait un curieux défaut d'articulation dans la langue. Il prononçait les B comme les D et les P comme les T. Aussi, c'était souvent des combinaisons de mots fort comiques dont on s'étonnait à l'audience. Un jour, au père Provost, qui s'embarrassait dans une explication, il dit « Mon père Provost, vous vous embrouillez !» À quoi le bonhomme avait répondu, tout rougissant, « Quoi que me chantait là, monsieur le juge, c'est-y des saloperies ?» Cela ne nuisait du reste en rien à son prestige établi de magistrat considérable et d'homme du monde accompli. Il avait même, parmi les plaideurs mécontents, l'honneur d'un sobriquet. On l'appelait le juge Landrouille. Quelquefois, M. Robin venait me chercher pour l'accompagner en ses promenades, et nous allions par les routes. Brusquement, il s'arrêtait, soufflait un instant, et le buste renversé en arrière, la figure de trois quarts, le geste dominateur, il s'essayait à des éloquences futures. « Eh, messieurs » clamait-il, « que dire de ce jeune homme, élevé chrétiennement par une famille tieuse, et que les tassions d'as du désir et de l'ambition ont conduit jusque dans ce dangue d'infamie. « Oui, messieurs !» Il s'animait, invoquait la justice, adjurait la loi, prenait Dieu à témoin. Ses bras tournaient sur le ciel, incohérents et rapides, comme des ailes de moulin à vent. « Oui, messieurs, la société moderne, dont les das fondamentales... » Et tandis qu'il parlait, enflant la voix, les oiseaux s'enfuyaient en poussant de petits cris. Les pies effarées gagnaient les branches hautes des arbres. Au loin, les chiens aboyaient. « Mais tiens donc, Matin, tiens donc !» me criait M. Robin, qui, à bout de souffle, s'affaissait sur la berge de la route et restait là, pendant 10 minutes, à s'éponger le front, dans une extase tribunicienne, où il voyait Berryer lui sourire. En rentrant, il me faisait des recommandations. « Tu travailleras ton droit ou ta médecine. Plus tard, tu iras à Tarie. Eh, bien, rappelle-toi, mon ami, qu'il faut être économe. L'économie, vois-tu, tout est là. Quand on a l'économie, on a toutes les autres vertus. » Pour la 100e fois, il me citait l'exemple d'un jeune homme de Bayeux, à qui son père, très riche industriel, allouait 2 000 francs par mois pour vivre à Paris. Le jeune homme se privait de tout, s'habillait et mangeait comme un pauvre, ne sortait jamais, dépensait à peine 100 francs par mois, et avec ses économies entassées dans un bas de laine, achetait des actions de chemin de fer et des rentes sur l'État. « C'est sublime !» ajoutait-il en me tapotant la joue. « C'est sudline, une conduite comme ça. Sois économe, mon garçon. Avec de l'économie, non seulement un sou, c'est un sou, mais c'est 2 sous, comme dit ma femme, qui connaît toute chose. Et tu y... » Mettant son chapeau sur l'oreille en casseur d'assiette et traçant dans l'air avec sa canne de fantastique moulinet, il concluait gaillardement. « Et tu y... » Ça n'empêche point qu'on s'amuse, Matin, il faut bien que je naisse tasse. » Il appelait cela m'apprendre la vie et me préparer aux luttes de l'avenir. Un corps sec, anguleux, très long, un visage rouge où l'épiderme par endroits s'exfoliait, un nez en l'air, court, aux narines écartées, les cheveux d'un blond verdâtre, plaqués en bandeaux minces sur les tempes meurtries, telle était Madame Eustochie Robin, qui connaissait toutes choses. Il était impossible de voir une femme plus disgracieuse. Sa laideur naturelle se compliquait de toutes les manies ridicules dont on eût dit qu'elle prenait plaisir à la souligner. Elle avait, en parlant, une façon aigre et sifflante de détacher chaque syllabe entre deux aspirations qui agaçait les nerfs autant que le frottement d'un doigt sur du verre mouillé. Et c'était à chaque mot des sourires pincés, des trémoussements, des révérences, toute une série de gesticulations gauches et de poses prétentieuses qui donnaient à son corps l'aspect d'un mannequin désajusté. Obsédée du désir qu'on s'occupât d'elle sans cesse elle se plaignait d'une indisposition, à la tête, au ventre, à la poitrine, soupirait, soufflait et demandait finalement la permission de délasser son corset. « Ouf !» faisait-elle. « Ce n'est pas qu'il me serre trop, au contraire, mais tous les soirs à cette heure-ci, je gonfle du double. C'est très inquiétant. Qu'en pensez-vous, monsieur Dervel ?»«
Un peu de dyspepsie, sans doute, » professait mon père.
« Les fonctions sont bonnes ? Régulières ?» Et madame Robin, baissant les yeux, minaudait. « Mon Dieu, oui, à peu de choses près, c'est-à-dire, enfin, ah, que les médecins ont donc des questions qui dépoétisent, n'est-ce pas, chère madame ? Vraiment, je n'aimerais pas être médecin, on doit en voir de toutes les couleurs. Et puis, j'ai horreur des malades, ça me fait l'effet de bête. » Je la détestais, ayant eu à pâlir de ses méchancetés. Madame Robin avait deux fils. L'un, Robert, garçon de 23 ans, soldat en Afrique, dont on évitait de parler et qui jamais ne venait à Vianter. L'autre, Georges, de 2 ans moins âgé que moi, un pauvre être souffreteux et difforme que sa mère montrait rarement, honteuse de son visage fripé, de ses petites jambes torses, de la faiblesse de ce corps d'enfant tardif et malvenu. Ma figure, qui passait pour jolie, ma santé robuste, me donnait, sur le pitoyable avorton, une supériorité qui m'eût fait l'aimer tendrement. Il était d'ailleurs doux et bon, et si résigné. J'eusse souhaité qu'il devînt le compagnon habituel de mes jeux, heureux de le protéger, de me servir de ma force en faveur de sa débilité. Lui aussi le désirait. Je le devinais à son regard implorant, d'où partaient vers moi les élans de son âme, comprimée et plaintive, son regard de prisonnier, avide de soleil et de liberté, son regard nostalgique, qui, au travers des fenêtres closes, s'accrochaient désespérément au vol des oiseaux pour monter, porter sur leurs ailes, dans la lumière et dans l'infini. Mais madame Robin mettait sans cesse entre nous son ombre jalouse, son ombre haute et rêche, comme un mur de pierre. Elle nous séparait, ne permettant pas qu'on pût nous voir l'un à côté de l'autre, car je faisais ressortir davantage la laideur de son fils. Frappée à la fois dans son orgueil de mère et dans son amour-propre de femme, elle en voulait à tout ce qui était jeune, beau et vivant. Elle m'en voulait surtout à moi, de mes joues roses, de mes membres solides, du sang pur et chaud qui coulait sous ma peau. Il semblait que j'avais volé cela à son fils, et c'était à moi qu'elle demandait compte de ses déceptions et de ses souffrances. Parfois, elle me marchait sur les pieds, si fort que la douleur m'arrachait des larmes, et elle s'excusait ensuite de sa maladresse avec mille tendresses hypocrites. Lorsqu'elle me trouvait seule, elle me souffletait, me bourrait de coups de pied et de coups de poing. Souvent, dans un coin, traîtreusement, elle me pinçait le bras jusqu'au sang, disant d'une voix mielleuse « Oh, le chéri, oh, comme il est joli !» Tandis que sur ses lèvres, amincies et desséchées par la haine, un horrible sourire grimaçait. Un dimanche, à la promenade, comme nous longions un remblai très élevé, d'une poussée légère du coude, elle me fit rouler en bas du talus. Et l'on me releva, le poignet foulé, la figure déchirée par les ronces, le corps couvert de contusions. Je ne me plaignais pas à mes parents, retenus par la crainte de persécutions plus cruelles. Et puis, comme Madame Robin ne parlait de moi qu'en termes affectueux et admiratifs, ma mère l'aimait davantage de me tant aimer. « Allons, mon petit Albert, sois gentil avec Madame Robin. Elle est si bonne pour toi. » Cette recommandation qui revenait à chaque instant m'exaspérait, me révoltait dans tous mes sentiments de justice. Mais que faire à cela? On ne m'eût pas cru. Si j'avais parlé, on m'eût peut-être puni. Tous les jours, sauf le jeudi, les Robins venaient passer la soirée chez nous. Ma mère et Madame Robin se livraient à des travaux d'aiguille, causaient de leurs affaires de ménage, se lamentaient sur la cherté croissante de la viande. « Et le pain qu'on ne taxe plus, n'est-ce pas une indignité ? Aussi est-ce étonnant de voir sur le dos de Madame Chaumier, la boulangère, des châles comme nous n'en portons pas, nous autres. Dame, avec notre argent !» Ce mot, l'argent, tintait sur leurs lèvres avec une persistance qui m'agaçait, qui me gênait, autant qu'un mot obscène. Quant à Monsieur Robin et à mon père, ils jouaient au piquet, très grave, méditatif, préparant, dans un silence hostile, des capotes formidables et de prodigieux 90. Parfois, ils s'entretenaient de politique, tremblaient aux souvenirs sanglants de 1848, s'extasiaient sur les mérites de Monsieur de la Guéronnière, comparaient Jules Favre à Marat. « Il est venu plaider une fois à Dailleux, » disait Monsieur Robin. « Je l'ai vu. Ah, mon ami, quelle effrayante figure il a! Il fait taire, positivement. Mais, par exemple, soyons justes, il tarle bien. Ce qu'il dit tout de même, vous savez, c'est envoyé. » Le dimanche, on organisait une partie de bogue avec le curé Sortet. Et bien que les enjeux fussent représentés par de modestes haricots, Madame Robin se montrait d'une âpreté farouche dans le gain, exigeait au moindre coup douteux qu'on se référât à la règle écrite. En sa qualité d'homme habitué aux obscurités des exégèses juridiques, Monsieur Robin était chargé d'expliquer, de commenter, de discuter, de juger. « Le dogue, » affirmait-il, en prenant la pose auguste d'un président de cour d'assises. « Le dogue n'est point comme le code. Cependant, il est bien évident que les rators, les rattrochements, et je dirais même les analogies... » Finalement, il tranchait toujours les difficultés en faveur de sa femme. Sous prétexte qu'il n'avait rien trouvé de convenable pour s'installer avec leurs meubles restés à Bayeux, sous la garde d'une tante, les Robins occupaient provisoirement le premier étage d'une maison que leur louaient les demoiselles Lejard, deux vieilles filles, riches et dévotes, grosses et roulantes, toutes deux vêtues de même façon, toutes deux pourvues d'un goitre monstrueux, une des curiosités de Vianney. L'appartement était triste, petit, réduit aux meubles indispensables. Les Robins n'avaient pas de domestique et ne recevaient point. « Comment voulez-vous, » s'excusait Madame Robin, « que nous forcions nos amis à venir dans un taudis pareil?
Mais quand nous aurons une maison, quand nous aurons nos meubles, alors... » Ses réticences et le regard et le balancement de tête qui les accompagnaient cachaient des promesses de fêtes inouïes, de dîners extraordinaires, insoupçonnés dans le pays. Il y avait dans ce « quand nous aurons nos meubles » prononcé sur un ton de voix mystérieux et revendicatif, tout un jaillissement de lumière versicolore, tout un éblouissement d'argenterie, de cristaux, de porcelaine. On y voyait s'allumer la flamme rouge des vins rares, défiler des pièces parées, s'ériger des architectures odorantes de biscuits et de nougats, se balancer des grappes de fruits dorés, ce qui faisait dire à des gens de Viantay « Oh, les Robins, il paraît que personne ne sait recevoir comme eux. Vous verrez ça quand ils auront leurs meubles. » On les consultait sur des questions d'étiquette, sur ce qui se fait et sur ce qui ne se fait pas, sur l'ordonnance symbolique du dessert, étude grave et passionnante. Chaque fois qu'ils acceptaient à dîner chez nous, M. Robin s'écriait « Oh, nous vous en devons des dîners. Nous vous en devons plus de 100. C'est honteux. Mais quand nous aurons nos meubles ?» On parlait alors de ces fameux meubles, pour qui les maisons de Viantay étaient ou trop grandes, ou trop petites, ou trop sombres, ou trop claires, ou trop au soleil, ou trop humides. Madame Robin racontait les splendeurs de sa chambre à coucher, en reps bleu, du salon, en damas jaune. Elle disait sa lingerie, brodée de rouge, sa verrerie relevée de filets dorés, son service à café tout en chine, dont on ne se servait jamais, étant trop fragile, et qui ornait la vitrine de son buffet bibliothèque en acajou. Monsieur Robin, lui, s'étendait sur la magnificence de sa cave à liqueur, qui contenait un compartiment pour les cigares, et de son bureau, un dureau en chêne sculpté et à secret. « Enfin, répétait-il, vous verrez tout ça quand nous aurons nos meubles. » La vérité, c'est que les Robin, confiant dans les promesses du sénateur, attendaient un avancement prochain et ne voulaient pas payer les frais de deux déménagements. Ils attendirent 12 ans dans la maison des demoiselles Lejar, et durant ces 12 années, ils ne cessèrent de s'excuser à chaque invitation nouvelle. « Oh, nous vous en devons des dîners. C'est honteux, vraiment. Mais quand nous aurons nos meubles ?» Soufflant, sa figure enfouie dans le triple tour d'un cache-nez à carreaux noirs et blancs. Elle, minaudant sous une capeline de laine rouge, cornait un large ruban de velours noir. « Quel temps, mes amis !» s'exclama M. Robin, qui s'ébrouait ainsi qu'un vieux cheval. « Quel temps ! Et le daromètre d'est toujours !» Madame Robin arrondit la bouche, prit un air affectueux et navré. « Nous nous disions tout à l'heure, mon mari et moi, en dînant, « pourvu que ce pauvre monsieur d'Hervel n'ait pas été obligé d'aller voir des malades par un temps pareil. Pauvre monsieur, quel dur métier ! La nuit, il fait si noir !» « Le fait est, déclara mon père, que ça n'encourage pas des temps comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand il faut, il faut. Et pas toujours sûr d'être payé, voilà le triste. D'abord, les pauvres, ce sont les plus exigeants. « Tardieu !» lança M. Robin. « Ils ne regardent point à la défense des autres. » Ma mère aidait Madame Robin à se débarrasser de sa capeline et de son manteau. « Et votre petit Georges ? » demanda-t-elle. « Vous ne l'avez pas encore amené ?»« D'un temps pareil, chère madame. Et puis il est un peu souffrant. Il tousse beaucoup. Figurez-vous que je n'ai pas apporté mon ouvrage non plus. Ce vilain temps me rend d'une paresse, d'une paresse. j'ai les membres brisés et la tête toute chose. »
M'apercevant, elle s'avança vers moi, les mains tendues.
« Le cher mignon que je n'avais pas vu, toujours joli donc, et toujours sage. Embrassez-moi, mignon. »
Et elle m'offrait à baiser ses lèvres, ses horribles lèvres pâles, qui m'étaient plus répugnantes que la gueule d'une bête féroce. Tout le monde s'installa autour du guéridon, près de la cheminée, et mon père dit gravement « Mes amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. » Les Robins levèrent la tête, très intéressés et recueillis. « Eh bien, voilà, l'abbé Jules revient à Vianthet. » Le juge de paix tressauta sur sa chaise, sa bouche s'ouvrit, démesurément élargie, et resta quelques secondes béante d'étonnement. Il s'écria « L'abbé Jules, qu'est-ce que vous me dites là ?»«
Il nous a écrit ce matin, » poursuivit mon père. « Oh, deux mots seulement, et nous l'attendons d'un jour à l'autre. Quant à ses intentions, il ne nous en dit rien. »
« Mais enfin, revient-il tout à fait? Ou bien n'est-ce qu'un petit voyage en tassant, tout revoir ?»«
Pour tout à fait. Du moins nous avons compris cela d'après sa lettre. Naturellement, de ce qu'il a pu fabriquer à Paris, pas un mot. Est-il encore prêtre seulement ?»
Et mon père semblait chercher dans les yeux du juge de paix une opinion, un conseil, car toutes ses perplexités le reprenaient, et je suis sûre qu'à ce moment, la vision lui vint de l'abbé Jules avec une longue barbe laïque sur une longue redingote de défroqué.
« Tiens, 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 » fit Monsieur Robin, « nous allons donc le connaître, ce fameux abbé ?
Nous aurons donc une messe de plus le dimanche ?» déclara Madame Robin avec satisfaction. « Ah, ce n'est pas malheureux. Depuis que Monsieur Desroches, le vicaire, est nommé chapelain de Blandé, le service vraiment est bien insuffisant. »
S'adressant ensuite à ma mère, elle demanda « Monsieur le curé est-il averti? Que dit-il? Que pense-t-il »
« Ah !» soupira ma mère. « Monsieur le curé est enchanté !» Mais il est enchanté de tout, vous le savez. Il ne voit le mal nulle part. Pourtant, il devrait bien connaître l'abbé, lui. Sans compter toutes les difficultés qu'ils auront ensemble. Ça sera du joli.
Mais à quel titre monsieur l'abbé s'établira-t-il ici?
Nous ne savons pas. Comme prêtre habitué, sans doute.
Elle ajouta d'une voix où l'on sentait s'aigrir toutes ses rancunes.
« Prêtre habitué! Un homme qui aurait pu devenir évêque s'il avait voulu, et faire tant de bien à sa famille! Nous aurions poussé Albert dans la carrière ecclésiastique. Au lieu de cela, que va-t-il nous arriver ?»
Madame Robin se tortillait sur sa chaise, balançait son buste maigre. Une moue surette pinçait ses lèvres.
« Que voulez-vous, chère madame ? » consola-t-elle. « Ce qui est fait est fait. L'important pour vous, c'est qu'il revienne. Vous devez vous réjouir de son retour. »
Ma mère haussa légèrement les épaules.
« Dans un sens, oui. Dans un sens, non. Vous ne le connaissez pas. »
« Je ne connais qu'une chose, » riposta madame Robin gravement. « C'est un prêtre. Ensuite, il est toujours préférable d'avoir un parent près de soi. On le soigne, on le surveille, on sait ce qu'il fait, et l'on est toujours à temps de prendre un parti si les choses ne vont point comme il faut. »«
Je sais bien, » fit ma mère, « c'est un avantage. » »«
Tandis que de loin, dame, on peut s'attendre à tout, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à rien. » Ce ne sont pas les intrigants qui manquent aujourd'hui. Et puis, écoutez donc, il ne faut rien préjuger à l'avance. Il est peut-être très changé, monsieur l'abbé. Et s'il revenait avec une fortune ? Un éclair passa dans les yeux de ma mère, mais il s'éteignit vite. Secouant tristement la tête, elle soupira. Ce serait bien à désirer pour lui, mais l'abbé Jules n'est pas un homme à ça. S'il est changé, il est changé en pire, voilà mon sentiment. Et peut-être faudra-t-il que nous le nourrissions par-dessus le marché. Paris, c'est si grand, si tentant. Il s'y passe tant de drôles de choses, et il y a de si vilaines gens. Le luxe, le luxe, s'exclama Monsieur Robin. Atari, c'est le luxe qui terre le monde. On ne sait plus quoi inventer, tout refaire dépenser de l'argent. Ainsi, chez le sénateur, dans le vestibule, figurez-vous qu'il y a deux nègres en bronze, trois fois grands comme moi, et qui tortent des flambeaux dorés. C'est incroyable. Le soir, ça s'allume. J'ai vu cela, moi. Moi, risqua mon père. Un soir, au théâtre, on m'a montré George Sand. Eh bien, elle est habillée en homme. Je crois que Jules devait, lui aussi, s'habiller en homme. Il n'a pas dû user beaucoup de soutane. Allez. Mais pour ce qui est de George Sand, on voyait très bien que c'était une femme. On le voyait même trop. L'horreur ! Fit avec dégoût Madame Robin, qui détourna la tête et balança la main comme si elle eût chassé loin d'elle une mouche importune. Mon père allait entrer dans des détails descriptifs et gaillards. Ma mère l'arrêta, en me désignant d'un coup d'œil bref. Car dès qu'il ne s'agissait plus de médecine, on était très sévère devant moi sur le choix des mots. La conversation continua sur l'abbé Jules, et mon père dut raconter sa vie, depuis son enfance jusqu'à son départ pour Paris. Ayant eu très fort sommeil ce soir-là, malgré l'excitation où me mettaient ces événements si considérables et l'insupportable présence de Madame Robin, je n'ai pas retenu grand-chose de ce récit. Je n'ai guère retenu que les exclamations scandalisées de nos amis, qui accompagnaient chaque épisode un peu vif. « Est-il Dieu possible ? Un prêtre ?» Je me souviens aussi qu'il fut fort question d'une dame boule-mère, morte en couche quelques jours auparavant, et je revois encore mon père expliquant la maladie. « Vous comprenez ? Tenez, l'utérus, ou la matrice, si vous aimez mieux, c'est comme un ballon. La partie renflée est en haut, n'est-ce pas ? Alors, ça pèse. » Puis l'on revint à l'abbé Jules. Il était 10h30 lorsque les Robins partirent. « Réfléchissez bien, chère madame, » disait l'horrible madame Robin en remettant sa capeline. « Ne brusquez rien, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, si vous avez besoin de nous, ne vous gênez pas. Je vous aime tant, j'aime tant votre petit Albert. » Mon père et Monsieur Robin causaient ensemble. « Peut-être les femmes ?» disait celui-ci. « Non, non, » répondait mon père, « il doit y avoir autre chose. Qu'a-t-il pu fabriquer à Paris ?»